Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Radio Foot International, chez vous, en somme chez elle aussi, même si la dame est partie, ou cela, à votre rencontre a priori, et on ne vous l'a pas dit hier, et bien c'est pour aujourd'hui. Comme promis, Annie, Hugo Moissonnier, Guillaume Ploquin sont à Abidjan, vous les y retrouverez demain et jeudi, voilà c'est dit. Et notre programme à nous, à l'heure, il est chargé, notamment avec la FIFA qui a remis hier ses trophées annuels, c'était à Londres, ça s'appelle The Best, c'est pompeux et bling bling, mais au final ça récompense un vrai grand joueur. Luka Modric, le meneur de jeu du Real Madrid, champion d'Europe et vice-champion du monde avec la Croatie. Pas de Français champion du monde, justement, sur le podium. Étonnant, mais trois en revanche dans le 11 type de l'année où l'on voit aussi apparaître le Brésilien du PSG, Daniel Alves, qui peut s'apparenter à un grand n'importe quoi. Côté entraîneur et sélectionneur, Didier Deschamps a été logiquement récompensé, juste devant Zinedine Zidane, le tenant du titre. Pas de Messi ou de Ronaldo primé, une première depuis 10 ans, du coup, bah ils sont pas venus. Et là, ça mérite pas le prix du fair play. Quant à nous, on a le The Best du quartier. Ici les Molineaux, Étienne Moati, bonjour.
Bonjour, merci.
Bonjour, je suis persuadé, tout le monde le sait.
Bah oui, d'être le meilleur du quartier. Au programme également, la première ligue anglaise avec Liverpool qui caracole en tête, 6 matchs, 6 victoires, Chelsea qui cale, Manchester City qui cartonne à Cardiff et Arsenal qui revient dans la course avec un 4e succès de rang. Beaucoup à dire aussi sur Paul Pogba qui tacle sévèrement son entraîneur José Mourinho, estimant que les Red Devils doivent jouer pour attaquer et pas pour défendre. Manchester United qui n'a pu faire mieux qu'un nul 1 partout à domicile face à un promu samedi, Wolverhampton. On a bien fait de vous inviter, Bruno Constant.
Vous avez bien fait, effectivement. Hein, bonjour. Bonjour. À tous.
C'est à vous de nous donner de l'argent maintenant. Il sera aussi question de la CAF, l'instance fêtière du football africain réunit son comité exécutif au Caire jeudi et vendredi. Il sera question de la prochaine CAN en juin 2019 au Cameroun ou pas, de la CAN féminine fin novembre au Ghana ou pas, et enfin des droits TV à renégocier car l'argent est toujours roi dans le football circus d'aujourd'hui, n'est-ce pas Philippe Doucet?
Absolument, monsieur Olivier, bonjour.
Et bonjour à tous. Allez, David Finzel, pied sur le bureau, est à l'écoute. Laurent Salerno aux manettes, Pierre-Olivier Guérin à trisser papier. On est parti.
Okay, so here we are, the best, best FIFA Men's Player of the Year award goes to
officially,
officially,
the best player of the year is Luka Modric.
Ambiance, hein, Radio Foot, il n'y a pas à dire. Alors c'est The Best, Londres hier soir du beau monde, enfin surtout ceux qui savaient qu'ils allaient recevoir un prix, les autres pas jugés bons de venir. Et sans réelle surprise, il y a eu lui, donc, Luka Modric, chic et sympa.
Good evening to everyone. It's a great honor.
C'est un immense honneur et un moment merveilleux de me tenir là devant vous tous. Je souhaiterais avant tout féliciter Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo pour leur formidable saison. Et puis ce trophée, je le partage bien sûr avec mon club, le Real Madrid, avec mon équipe nationale, la Croatie, et avec tous les entraîneurs pour qui j'ai joué. Sans eux, tout cela n'aurait pas été possible.
Je vous ai vu avoir un petit air narquois en écoutant Luka Modric, mon cher Étienne Moati.
Non, pas d'air narquois, il sait faire le métier, d'ailleurs il commence à être habitué parce qu'il a déjà remporté le prix UEFA du joueur de la saison, donc il commence à savoir faire des discours, et puis il fait des discours politiquement corrects.
Comme ça, il est rodé pour le Ballon d'Or.
Ça, c'est peut-être plus, ouais. Plus malin, peut-être plus malin que les discours d'Antoine Griezmann, donc qui se met à la même table que Ronaldo et Messi. Ça a été assez mal perçu, il a pris des tacles un petit peu de partout. En tout cas, ça instille l'idée dans les têtes que le joueur de l'année, c'est Luka Modric, parce qu'il commence à collectionner les prix et que forcément, à la veille ou presque donc de la remise du Ballon d'Or, qui arrivera quand même dans quelques semaines encore, on commence à s'habituer à ce que les Français puissent ne pas être couronnés.
Surtout que, encore une fois, les votes risquent de se diluer. Ils sont quand même quelques-uns, enfin, même s'il n'y en avait qu'un. Rien ne dit que ce serait lui l'élu. C'est un discours, en tout cas, ça fait du bien. On a l'impression qu'il y a un peu plus d'émotion que dans les discours rodés de ces 10 dernières années où on avait droit à Messi et Ronaldo qui ne savaient plus trop quoi dire. Si tant est qu'ils aient eu un truc à dire.
Encore que Ronaldo qui est très très attiré par ces récompenses individuelles, avait toujours une émotion réelle, comme les grands champions savent le faire, c'est-à-dire qu'à la 12e fois où il gagne, il est toujours heureux, donc c'est formidable. Mais oui, enfin en tout cas c'est agréable, oui, que le jeu soit beaucoup plus ouvert, qu'on se pose les questions, on va se poser des questions sur le Ballon d'Or, c'est certain, il va y avoir... J'imagine que les trois hommes qui seront... parce que le Ballon d'Or va faire comme The Best, hein, je crois. L'année dernière, ils avaient fait comme ça. Petit à petit, ils avaient descendu la liste à 10, puis à 3. J'imagine qu'on avait 3 du Ballon d'Or. Il n'y aura pas les mêmes que pour The Best et que donc, il y aura une petite redistribution intéressante.
C'est une récompense logique, en tout cas, Bruno. Luka Modric.
Ben
on
oui.
rappelle qu'il devance Ronaldo.
C'est un mauvais français qui parle à ce micro. Comment ça, une récompense logique?
Je l'assume très bien.
Voilà, on est sur une saison, et je donne la parole à Bruno, où la France est championne du monde quand même. Et ouais. Des joueurs comme Antoine Griezmann ont aussi remporté donc un titre européen. Donc dans la logique, on doit dire historique du football, ces prix-là revenaient plutôt à ceux qui avaient gagné les plus grands titres.
Mais vous l'avez dit, c'est la France qui a été championne du monde et peut-être plus que jamais la France dans son groupe, dans son ensemble, dans son équipe. Il est bien difficile de sortir une individualité. Voilà, je le présente comme ça.
Griezmann n'est même pas dans l'équipe type.
Il est sixième d'ailleurs. Il est sixième.
Ce qui est assez incroyable. Mais non, pour revenir à Modric, oui, c'est une récompense logique, on va dire, pour tout le bonheur qui nous apporte et pour tous ces joueurs qui lui ressemblent, qui ont été oubliés, je pense à Xavi, à Iniesta, depuis 10-15 ans, il y a plein de joueurs comme ça qui méritaient peut-être un jour d'être récompensés avec un honneur pareil. Et quelque part, peut-être qu'il y a aussi cet amour-là qui est porté depuis quelques années vers ce genre de joueurs qui sont un peu plus discrets, qui servent davantage leur équipe qu'eux-mêmes. Et un joueur comme Modric, moi je me souviens toujours quand il était transféré de Tottenham au Real Madrid, au bout de quelques mois à Madrid, on se dit mais qu'est-ce que ce joueur est venu faire au Real Madrid ? Jamais il réussira. Et on voit aujourd'hui où il en est.
Donc on l'a dit, Ronaldo est deuxième, il est champion d'Europe, c'est logique, puis ça reste quand même un très grand joueur. Salah troisième, c'est peut-être là où on aurait pu trouver un Français. Salah qui se console avec le prix Puskás du plus beau but, on a vraiment l'impression alors que c'est qu'il, alors un qu'il gros, gros lot de consolation.
Clairement.
Pavard l'aurait sans doute mérité, il a été
surtout,
but de la Coupe du Monde.
Ronaldo et Bale, Et Bale, peut-être Bale en finale de la Ligue des Champions.
Bale ou Ronaldo.
Un retourné, c'est quand même le geste que tous les gamins rêvent de faire dans un match de foot. Quand deux joueurs sont capables de le faire en Ligue des Champions dans des matchs aussi importants, c'est incroyable qu'ils soient pas récompensés.
Celui de Ronaldo est tellement exceptionnel que je vois pas comment il aurait. Ça ne peut pas être le prix Puskás.
D'ailleurs,
c'est
Ronaldo ahurissant. Pense la même chose que toi.
Ouais. Non, mais Ronaldo, il pense qu'il a gagné tout, qu'il doit gagner absolument tout. C'est en quoi ils sont. Bon, très honnêtement, on en parle parce que voilà, ça fait des débats, mais franchement, ces prix, multiplication de ces prix nous ennuie profondément. Avec des comparaisons sans intérêt.
C'est la multiplication qui nous ennuie. Ouais. L'idée du prix, ça nous plaît. Voilà. S'il y en avait un. Et il n'y en a qu'un, en fait. Alors, je dis un petit peu ça.
C'est
Philippe, Philippe va dire que c'est parce que donc, c'est le groupe L'Équipe et donc France Football qui organise le Ballon d'Or. Mais très sincèrement.
Mais historiquement, il n'y en a qu'un, bien sûr.
Mais d'ailleurs, l'ensemble des joueurs pensent comme ça. Les joueurs, ils sont contents de recevoir donc, le prix FIFA. Ils sont contents de recevoir le prix UEFA. Mais il n'y en a qu'un seul qui compte vraiment. Celui qui est dans l'histoire, c'est le Ballon d'Or.
Il y a aussi une chose qui compte vraiment, je fais allusion à un tweet de notre confrère d'RTL, Philippe Sanfourche, ce matin, qui dit on peut se féliciter de Luka Modric, je le fais à peu près comme ça, on peut regretter qu'il n'y ait pas de Français, on peut regretter surtout la présence de Daniel Alves, tout ça, ce ne sont que des prix, c'est subjectif, ce n'est que de la poésie, ce qui compte c'est d'avoir deux étoiles sur le maillot, la France est championne du monde, et ça c'est la vérité du terrain. C'est pas tout à fait ça, mais en gros c'est ce que ça veut dire, et il est pas loin de la vérité, même si on en discutait avec le réfé ce matin, quand on est acteur, on dit toujours c'est le public qui fait ma carrière, mais quand on reçoit un Oscar, on est quand même content de le prendre. sur le football, la multiplication des prix fait quand même que trop de prix tue le prix.
Oui, complètement, puis bon, c'est des... On voit bien, il y a des défauts dans les systèmes, alors il faudrait nous expliciter pourquoi... Pourquoi Courtois peut être le meilleur gardien et il n'est pas dans l'équipe type?
On va y revenir. Continuons.
Salah, troisième, il n'est même pas dans l'équipe type.
Une saison exceptionnelle.
Pas de Français, on en a déjà beaucoup parlé. Sur le podium, en tout cas. Mbappé, quatrième. Griezmann, sixième. La possibilité du Ballon d'Or, elle s'éloigne quand on voit ce classement-là. Parce que même Mbappé est vraiment nettement devant.
Ouais, mais pourquoi Mbappé est devant Griezmann?
Ah ben ça, je
sais pas, j'ai deux titres. Par exemple, pourquoi Hazard, qui a fait deux mois magnifiques dans sa saison, même
oui,
pas
mais
un
pas,
mois
bien
magnifique
sûr,
pendant
même
la Coupe du Monde
premiers.
Non, mais pourquoi il est dans l'équipe type et pas Griezmann? Pour moi, Griezmann était meilleur sur la saison que Hazard.
J'ai une idée, mais qui explicite comment se font ces élections. On a parlé du Ballon d'Or. Il est juste de rappeler que le Ballon d'Or, comme c'est France Football qui l'organise désormais, ce ne sont que des journalistes qui votent à l'ancienne. Et là, en l'occurrence, pour la FIFA, alors il y a un mélange.
Il y a un panel de supporters, de journalistes, de sélectionneurs et de capitaines. Mais et pour l'équipe type, c'est encore différent. L'équipe type, ça va expliquer beaucoup de choses, mais on va y revenir. C'est 25 000 joueurs dans le monde entier. Mm-hmm. Donc il y a Pimpin, il y a Popol.
Non, mais je pense que on a bien vu quand le Ballon d'Or était où le poids des sélectionneurs et des capitaines était très important, ils faisaient les deux tiers. C'était les meilleurs joueurs qui étaient élus. Mais les meilleurs joueurs, tout court, pas le meilleur joueur de la saison.
Voilà, c'est ça.
Ronaldo est le meilleur pour moi. Bon, bah, je vote Ronaldo. Messi est le meilleur pour moi. Je vote Messi. Ce qui fait qu'il n'y a pas une année, même quand Iniesta et l'Espagne gagnaient la Coupe du Monde, où finalement on se retrouvait avec un vote. Et je pense que c'est ce qui s'est passé une fois de plus. C'est-à-dire qu'on a des votes du, je pense, Hazard. Hazard est un joueur que je pense tous les entraîneurs, il y a plein d'entraîneurs qui votent pour Hazard. Même s'il n'a pas été exceptionnel tout au long de la saison. Ils s'en fichent complètement.
Et pour une fois.
Ils savent que Hazard était ils aiment beaucoup Hazard et puis il a quand même été demi-finaliste. Donc voilà, ça leur suffit.
Et pour une fois, on peut dire du bien des journalistes. C'est-à-dire que les journalistes qui votent, ils font leur travail, on va dire, plus sérieusement
mais
que
il
ne
il
le
va
font
falloir qu'ils le
les sélectionneurs, que ne le font les capitaines d'équipe. Parce que même si on regarde ce prix FIFA qui a été remis, par exemple, même, et là pour le coup, ça va contre l'équipe de France. Didier Deschamps, lui, il a mis trois Français aux trois premières places. Bon, très bien, c'est son
alors,
choix.
Justement,
Hugo Lloris a mis lui aussi trois Français aux trois premières places et tout le monde fait un petit peu comme ça. En fait, c'est de la tambouille interne et à la fin, sort un heureux élu ou plusieurs heureux élus avec l'équipe et on ne sait pas forcément toujours très bien pourquoi.
J'ai ressorti juste 3-4 votes. Ronaldo plutôt bon camarade. Hein. Varane, Modric, Griezmann en 3, Ronaldo. Et ça,
ouais, c'est bonus.
Voilà, je lui ai mis une petite claque tout à l'heure gentiment sur les fesses en disant il n'est pas venu, mais enfin il avait plutôt voté en son âme et conscience et pas pour lui. Mais Sergio Ramos, c'est l'inverse. Modric, Ronaldo, Messi. Ah,
c'est étonnant.
Messi.
C'est étonnant.
Ouais. Modric en 1, Ronaldo en 2, Messi en 3. Et puis, juste pour la fine bouche et pour nos auditeurs, et puis parce qu'on les aime bien, Florent Ibengué, le coach de l'AS Vita Club et de la RDC. Mbappé, Varane, Hazard. Voilà un connaisseur de foot aussi dans son genre, parce que aller chercher Hazard, lui il le met. Claude Leroy, qu'on connaît bien, le sélectionneur du Togo. Modric, Mbappé, Hazard.
Oui.
Voilà, je voulais juste soumettre là, comme ça...
Mais c'est vrai que pour Antoine Griezmann, on peut vivre ça comme une vraie injustice, parce que dans l'histoire, on va dire, du football, il est le leader quand même de l'équipe de France qui est championne du monde. Il a gagné, et là, il est le vrai leader de l'Atlético de Madrid, une Coupe d'Europe où il a été décisif. Il a gagné aussi une Super Coupe d'Europe. Donc, on va dire, dans l'histoire absolu du football, normalement, ça vous prédestine à être dans les 2-3, en tout cas à coup sûr, pour jouer la gagne sur ce genre de prix et pour le Ballon d'Or. Et aujourd'hui, on voit qu'il s'en éloigne. Par exemple, Kylian Mbappé, on vient de le dire, passe devant lui sur ce classement-là. C'est-à-dire que la force de quelques images est absolument déterminante.
C'est la force médiatique, quoi.
Les images de Mbappé en Coupe du Monde, qui sont des images formidables, de fulgurance comme ça, et ben ça a suffi à faire passer Mbappé devant Griezmann.
Pour le grand public, oui. Mais il y a aussi les sélectionneurs, par exemple. Moi, je suis persuadé qu'il y en a plein qui estiment que Mbappé, c'est un joueur plus rare, plus exceptionnel que Griezmann, et vont voter pour lui, même si les faits disent que Griezmann a fait une meilleure saison globalement que Mbappé.
Mais
et eux, ils vont être plus marqués par Mbappé. Ils vont dire, ça, c'est un talent beaucoup plus rare que Griezmann.
Ils votent pour le talent. Ils votent pour le talent, encore une fois, et pas pour la saison, les performances, etc. Et encore une fois, prix, on se demande s'ils sont votés donc sur les deux mois, juin-juillet, qui comptent le plus, ou s'ils sont sur toute la saison. Parce qu'une l'absence de Salah pour moi dans l'équipe type, par exemple, c'est hallucinant.
Alors on va venir à l'équipe type, juste un mot.
Justement un mot, mais Étienne me contredira peut-être, mais le ballon d'or de cette année va être très intéressant justement pour voir si les journalistes effectivement votent différemment. Parce que l'année dernière c'était déjà le cas, c'était que des journalistes qui votaient. J'ai trouvé que leur trio... Ronaldo, Messi, Neymar ressemblaient étrangement, alors qu'il n'y avait pas une évidence à ce que Messi soit deuxième et Neymar troisième. Ronaldo était une évidence. Les deux autres n'étaient pas une évidence. Donc, les journalistes votent-ils différemment des sélectionneurs et des joueurs? On le verra.
On le verra le 3 décembre. On reparlera tout à l'heure rapidement du Ballon d'Or. Ce sera le 3 décembre. Puisque vous citez le troisième joueur, juste pour rire, 1508 votes enregistrés. 1508.
Ouais.
Neymar, 0. Ça va pas lui faire ça. Il est capable de nous faire une petite crise. Ouais, il va se rouler par terre.
Là aussi,
ça c'est sûr.
Là aussi, la force des images est absolue parce que évidemment que Neymar mérite pas d'être dans les trois.
Bien sûr.
Peut-être
mais
que
zéro
mérite,
vote
pas
sur
non plus
1508.
D'être dans l'équipe type. Évidemment sur cette saison.
Ça, même le Brésil
il
n'a pas
quand
voté
même
pour
fait
lui.
Des choses Neymar pour
même
avoir
les Brésiliens n'ont
un
pas
vote.
Voté pour lui.
Mais ouais. L'image qu'il a donnée pendant la Coupe du Monde et même au Paris Saint-Germain, évidemment.
Alors j'avoue, j'ai vu passer ça sur Twitter. On n'est pas allé chercher et à regarder les 1508 votes. Mais enfin, ça semblait sérieux, puis c'est rigolo, ça mange pas de pain. Trois champions du monde dans le 11 type, Varane, Kanté, N'Golo Kanté, bien sûr. Ouais. Et Mbappé, vous l'avez dit, toujours pas de d'Antoine Griezmann. On l'a cité. Qui d'autre était absent tout à l'heure dans le 11 type? C'est vous qui disiez, là, quelqu'un qui aurait dû dire. Hazard n'est pas dans le 11 type?
Si, Hazard. Si,
il y a, bien sûr. Mais il y a Daniel Alves. Alors, celle-là, c'est quand même la meilleure de l'année.
C'est
les 25 000 votants, là. Vous regardez de temps en temps un match du Paris Saint-Germain? Non, mais Daniel Alves. Il a fait quoi par
ils n'ont pas non plus regardé la Coupe du Monde parce qu'il n'était pas non plus à la Coupe du Monde.
Bah ouais, c'est ça. Ça prouve bien que tous ces titres-là.
Il a fait une bonne demi-heure.
Ça décrédibilise totalement.
Bien sûr.
Il a fait une bonne première demi-heure contre les Herbiers en finale de la Coupe de France. Ça peut justifier.
Ouais, c'est ça. Allez, on va dire que ils ont tous regardé les Herbiers, le Paris Saint-Germain, juste avant de se blesser. On parlait tout à l'heure du Ballon d'Or avant de passer aux entraîneurs et sélectionneurs. On le rappelle, ce sera le 3 décembre avec des nouveautés. Ça a été annoncé hier, la création d'un Ballon d'Or féminin. Ça n'existait pas. Et puis, il y aura aussi le prix Copa. Alors ça ressemble à la consolante, hein, quand même. Le prix Copa.
C'est bien.
Oui, non, mais c'est bien, mais. On a l'impression qu'on prépare le terrain. Ce sera pour le meilleur joueur de moins de 21 ans. Mmh. Et ce sont les anciens primés encore vivants qui vont voter. Ils sont donc 33. Kylian Mbappé, si vous nous écoutez, faut préparer le costume parce que là, je vois mal comment ça pourrait lui échapper quand même. Ce prix-là.
Ça voudrait dire qu'il n'aurait pas le Ballon d'Or, hein, parce qu'il est aussi en liste normalement pour le vrai, le grand.
Allez, va pécho les deux. Côté sélectionneur et entraîneur, on l'a dit, hein, sans faute ou presque côté français, Didier Deschamps, qui avait voté pour Zinedine Zidane, hein, il l'avait dit avant.
Il sait faire de la politique, Didier Deschamps.
Bah, en même temps, il sait qu'on peut le vérifier. Il devance justement Zinedine Zidane.
Qui a dû voter pour Deschamps.
Oui, qui a sûrement voté pour Didier Deschamps. Je vous propose qu'on écoute Dédé, tiens.
C'est un honneur, une fierté, parce que c'est une récompense individuelle, mais c'est aussi une récompense pour tout mon staff. Et c'est surtout grâce aux joueurs, sans eux... J'aurais pas ce trophée-là. Et puis, je pense que c'est un trophée aussi important pour la fédération, pour mon président. J'ai jamais été trop habitué quand j'étais joueur aussi aux récompenses individuelles, mais en plus, en voyant les autres nominés avec Zinedine Zidane et Zlatko Ladic, voilà, il y avait beaucoup d'autres entraîneurs ou sélectionneurs qui auraient mérité aussi ce trophée, mais je suis très fier.
Oui, il l'est sûrement fier. Il y a aucun doute là-dessus qu'il soit devant Zinedine Zidane, ça choque quelqu'un?
Non.
Il est étonnant du titre. Hein.
Non. La Coupe du Monde est tous les 4 ans. Le titre est évidemment plus exceptionnel, même si.
Puis il partait plus loin.
Même si Zidane a eu 3 Ligues des Champions, cette année il n'en a eu qu'une. Enfin, si j'ose dire. Je veux dire, donc on compare une Ligue des Champions, que ce soit la 3e ne rentre pas en ligne de compte. Et c'est logique que ce soit Deschamps.
Oui, on a pu mesurer donc le poids de Didier Deschamps dans cette sélection au travers de tous les récits qu'ont pu faire tous les envoyés spéciaux qui étaient autour de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il est vraiment l'architecte de cette équipe, même si il y a certains qui aiment pas trop donc la maison qu'il a bâtie, en tout cas au niveau du style de jeu. Mais en tout cas, elle a gagné. Il y a sa patte derrière et dans l'état d'esprit qu'a eu cette équipe pendant toute cette Coupe du Monde, évidemment, il y a Deschamps derrière.
Oh non.
Bah ça traduit le fait qu'il n'y a pas de joueur français primé sur ce genre de trophée et que le meilleur français finalement c'était son sélectionneur. Et c'est ce qui se dégage de cette équipe, parce que sortir
ça
un joueur
la
de cette équipe...
C'est une équipe, un groupe France qui est champion du
c'était
monde.
C'était sa force, c'était sa principale force. Il y a eu quelques individualités, mais sur certains matchs, pas sur toute la compétition, même si pour moi Griezmann, dans les derniers matchs, le quart, la demi et la finale étaient pour moi le meilleur français. Mais pas de loin, donc voilà, c'est Deschamps qui illustre, qui cristallise cette équipe en tout cas.
Et Pogba est nulle part dans le classement.
C'est étonnant.
Alors je vais pas remonter. Oui, il doit en avoir quelques-unes. Mm-hmm. Si le Réfé nous écoute, il viendra dans le dernier quart d'heure et il nous amènera cette info. Vous pouvez lui faire confiance. Bon. Mais on n'a pas regardé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Pogba. Il ne fait pas partie de ceux qui sont même cités pour le Ballon d'Or, puisqu'on parle de Varane, Mbappé, Griezmann. Pogba n'a rien gagné en club. C'est sans doute ce qui explique.
Non, c'est vrai.
Cela. Reynald Pedros, meilleur entraîneur d'une équipe féminine, ça c'est une belle récompense pour un homme qui partait de loin. Je pense que peu auraient misé sur une récompense individuelle pour Reynald Pedros entraîneur il y a quelques années, non? C'est vrai, ça veut dire que les techniciens français sont reconnus et ont des résultats.
Oui, les deux techniciens honorés sont des techniciens français, donc on va on va prendre ce plaisir à sa juste valeur, sachant que dernièrement, c'était pas les techniciens français qui étaient le plus à la mode. Donc c'est un joli retour et sans doute une jolie pub pour tous les techniciens français qui ont envie de s'exporter. Je pense que là, à nouveau, les portes du monde vont s'ouvrir un peu plus pour les techniciens français.
Oui, c'est surtout un hommage pour le football féminin français parce que là, pour le coup, ouais. Il règne en Europe depuis plusieurs saisons. Donc il n'est pas le seul entraîneur de Lyon qui a été champion d'Europe. Donc il y en a eu d'autres avant lui. Ça veut dire qu'il y a une constance donc sur ces postes-là. Donc moi, plus qu'un entraîneur français, je trouve que ça récompense l'investissement qu'a pu mettre la France dans le football féminin.
De club. Et puis voilà, c'est certainement un prix qui doit le toucher profondément, Reynald Pedros.
Oui, qui valide son choix, même si je pense en comme Étienne que n'importe quel entraîneur à la tête de cette équipe de Lyon aurait été sacré.
Oh là là, c'est vrai, il ne faut pas le dire.
Ben, faut le dire quand même, sinon.
Oui, bien sûr.
Sinon, on ne prendrait pas de ce titre.
Un mot encore des supporters, tiens, écoutez ça. Comment no te voy a querer? Je ne vais pas chanter parce qu'il fait beau. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? C'est le réfé qui m'a aidé à l'époque à traduire ça parce que le film là, c'est un film en fait. Et c'est qui l'a fait? C'est Bibi. Eh oui, ben oui.
Qu'est-ce qu'on est bien
sur
entouré
sur la page
ici.
Facebook de Mondial Sport, vous le retrouverez. C'était le 21 juin et c'était quoi et quand? C'était dans l'avion qui atterrissait avec Ekaterinbourg quelques heures du match avant France-Pérou. Sont donc les Péruviens qui ont été désignés meilleurs supporters de cette Coupe du Monde et c'est bien mérité parce que quand vous prenez l'avion et que vous entendez ça, et je peux vous dire que ça tapait sur la carlingue, eh ben ça fait plaisir. On se dit qu'on est à la Coupe du Monde et hop.
Surtout quand on atterrit.
Exactement, surtout quand on atterrit. Et pour terminer, alors il y avait des dizaines de supporters. Il y avait un Français, en tout cas un qui avait le maillot, et quand on s'apprêtait à sortir, il y a un Péruvien, un jeune, qui tout d'un coup voit ce maillot et qui se retourne devant tous ses potes qui prennent les trois quarts de l'avion et qui dit « Es un Français ?» C'est un Français, j'en ai trouvé un. Il y avait un Français, tout le reste c'était des Péruviens. Belle ambiance, ils le méritaient aussi. On a parlé des Sénégalais qui étaient en compétition parce qu'ils avaient nettoyé leur tribune, les Japonais l'ont fait aussi. Mais c'est vrai que voilà, dans l'ambiance... et dans le nombre aussi, les Péruviens méritaient bien ça après des années et des années d'absence en Coupe du Monde.
Que ce soit des Sud-Américains après cette Coupe du Monde, ça me semble une évidence, même si j'aurais bien aimé que ce soit le Sénégal qui a mis une remarquable ambiance. Ils n'étaient pas tant que ça, ils étaient 700 je crois, les Sénégalais seulement sur la Coupe du Monde, mais ils ont mis une ambiance magnifique, ils ont été des acteurs majeurs, mais honnêtement par rapport les Sud-Américains, ça a été exceptionnel. Sans eux, je ne sais pas ce que serait devenu cette Coupe du Monde, parce que d'ailleurs, les Européens étaient littéralement
dès les
absents.
Quarts de finale, lorsqu'ils ont disparu les Sud-Américains, ce qui a coïncidé aussi avec la disparition du pays hôte, il n'y a plus eu d'ambiance du tout sur les 8 derniers jours de cette Coupe du Monde.
Alors heureusement, ils étaient là jusqu'au bout, simplement évidemment les Argentins, ils avaient du mal à se passionner pour France-Croatie. Quoi.
Je ne sais pas pourquoi. Ils croient tellement leur équipe qu'ils achètent des billets jusqu'à la finale, donc forcément, il faut bien qu'ils restent. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette chanson que vous avez entendue, en plus, elle est chantée à quelques heures du match contre l'équipe de France. Ils vont le perdre et ils seront éliminés. Et, au bout de deux matchs, ils étaient sortis des Péruviens. Mais voilà, c'est ça. Ça ne les empêche pas de chanter. Bon, voilà, on a fait le tour de The Best. Rendez-vous l'année prochaine, hein, les gars de la FIFA. Essayez de voter, différemment, surtout pour l'équipe type.
Il y a un autre problème de date. C'est pas facile à trouver, hein, parce que le faire juste après la Coupe du Monde, le 15 juillet, ce serait bizarre, ce serait inopiné. Mais là, fin septembre, on est déjà dans autre chose. Je pense que ça a contribué aussi à ne pas vraiment se passionner pour ce vote dont on ne sait plus si c'est un vote pour ce qui s'est passé depuis ou la Coupe du Monde ou la saison complète
avant. Ou si c'est juste une soirée de gala.
C'est
les cacahuètes d'apéritif avant le Ballon d'Or qui est le vrai plat de résistance. Tout le monde va se régaler.
Le 3 décembre. On était à Londres pour cette soirée. On va retourner à Londres.
Il est parfait. Well done by Ramsey. Lacazette! Oh wow! That is a beauty! Onside and squares it for Ramsey and Aubameyang scores. And suddenly the sun comes out.
Alors on vous a monté comme ça deux sons avec Laurent Salerno, sont les buts inscrits pour les Gunners par Lacazette et par Pierre-Emerick Aubameyang. On en parlera dans quelques minutes. D'abord Liverpool qui caracole en tête de la Première Ligue, qui a battu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Tout va bien pour les hommes de Jürgen Klopp. 6 matchs, 6 victoires, 14 buts marqués. 4 par Mané le Sénégalais, 3 par Salah d'ailleurs notamment. 2 encaissés seulement, ça c'est quand même une sacrée performance. Je vous propose d'écouter Klopp, il marche sur l'eau mais garde la tête froide.
Yes, it's a surprise, of course, you can expect that.
Oui, bien sûr, c'est une surprise. Vous ne pouvez pas l'anticiper. Mais toutes les prestations que nous avons faites jusque-là étaient au moins suffisantes pour remporter les rencontres. C'est comme ça, et toutes les confrontations, tous les styles de jeu, tous les schémas tactiques qui nous ont été opposés, les gars ont répondu présent. Ils ont fait face, ils sont restés concentrés sur le jeu. C'est très bien, mais il faut enchaîner. Demain, la Coupe de la Ligue contre Chelsea, et puis après le championnat samedi, puis à nouveau trois jours plus tard probablement. Les semaines sont très denses, avec en point d'orgue le gros match contre Manchester City, alors ça va être dur. Ça va être dur pour tout le monde. Il vaut mieux gagner que faire des nuls ou perdre, mais en même temps, je suis sûr que nous avons suffisamment mûri et compris comment faire pour rester en haut du classement.
Cette fois, c'est la bonne, vous pensez, Bruno Constant. C'est vrai qu'on est loin de la fin, mais on les attend, on les attend. Ça fait 2-3 saisons. Le groupe a peu bougé. Il était très fort la saison dernière. Pourquoi pas cette année?
Ben si, il a quand même bougé, le groupe, parce qu'en un an, il y a plus de la moitié de l'équipe qui a changé.
Il y a eu tant de départs que ça. L'ossature, les cadres sont là quand même.
Non. Mais il y a un an, Alexander Arnold n'était pas titulaire. Il y a un an, Robertson n'était pas à Liverpool. Il y a un an, c'était pas le même gardien, Alisson, qui est aujourd'hui dans le but. Van Dijk n'était pas là.
Alors, je faisais référence à la saison dernière.
Oui, mais c'est quasiment ça. Un an près, la saison dernière n'était pas cette équipe-là. Enfin, le début de la saison, c'était pas la même équipe. Donc, il y a du changement, et ça, la force de Klopp, c'est qu'il y a du changement, mais surtout le changement qui, à chaque fois, c'est une plus-value. Les joueurs qui arrivent sont vraiment une vraie plus-value qui renforce cette équipe, renforce le 11. Et ce qui est fort dans cette équipe-là, c'est qu'elle n'a plus besoin d'être bonne pour se rendre les matchs faciles. Et ça, c'était une grosse difficulté, un gros point noir à Liverpool ces dernières saisons, où ils butaient souvent face aux petites équipes. Là, en une mi-temps, c'est réglé. Le dernier match contre Southampton, c'était réglé au bout de 45 minutes. Et ils ont cette capacité-là à se rendre les matchs faciles. Après, il y a les tests qui arrivent et Klopp en parle. C'est les matchs contre Chelsea et Manchester City qui vont vraiment indiquer si Liverpool a le coffre pour rêver un nouveau titre, le premier depuis 1990. Tout le monde en rêve. Tout le monde l'espère en Angleterre, en dehors du côté de Manchester. Mais le rêve est en train de se créer autour de Liverpool. Ils ont une équipe formidable. Maintenant, on est très très loin de la fin de la saison.
Il n'est pas d'accord, je crois.
Si, je suis parfaitement d'accord. Mais avec l'analyse, en tout cas, technique sur le niveau de Liverpool, je pense que la vraie inquiétude pour eux, c'est l'attente. L'attente, justement, évidemment, de la ville, pratiquement tout un pays, donc à part évidemment un certain nombre de clubs.
On a le même genre de choses en Italie avec Naples, qui attend depuis aussi longtemps.
Et puis presque même en dehors d'Angleterre, où il y a une cote d'amour pour Liverpool qui est absolument énorme. Et on a vu, il y a quelques saisons, ils étaient à deux doigts, à une petite erreur de Steven Gerrard pour devenir champion d'Angleterre, renouer avec leur passé glorieux. Et ils ont buté, donc je ne vais pas leur porter la poisse, mais c'est peut-être le poids de ce passé-là, c'est cette attente tellement forte, je pense, qui est leur principal handicap.
Philippe. Ils ont quand même, pour contrarier en partie ce que dit Etienne. C'est un contrepoids. Moi, j'entends cet argument, mais je trouve quand même que Liverpool a singulièrement progressé. Je rejoins Bruno, évidemment, sur les joueurs qui sont arrivés et qui ont fait progresser l'équipe, mais je trouve Klopp beaucoup plus sage dans sa manière d'aborder les matchs. Comme le disait Bruno, on n'a plus besoin de flamboyance permanente du côté de Liverpool, ce qui faisait que de temps en temps, quand il y avait un match un peu plus terne, il perdait ou il lâchait deux points bêtement contre des petites équipes. Là, on les sent beaucoup plus tactiquement, beaucoup plus au point, une équipe beaucoup plus mature, beaucoup plus construite, avec beaucoup moins de trous qu'avant, où au milieu de terrain était toujours un peu moyen. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complet et je pense que Liverpool est armé pour...
Ah ben, Salah, Firmino, Mané, c'est quand même quelque chose.
Oui, mais il n'y a pas que...
Bizarrement, c'est pas la principale force de Liverpool. Aujourd'hui, sa force, c'est sa défense qui est de plus en plus solide et c'est son milieu de terrain qui est fait presque de joueurs anonymes, mais qui est extraordinaire.
Anderson, on est d'accord.
Anderson, Milner, c'est Wijnaldum qui arrive de Newcastle. Enfin, c'est des joueurs qu'on connaissait pas il y a encore 2-3 ans et qui sont des forces énormes.
Keïta qui est un joueur
fantastique.
Qu'est devenu le gardien si malheureux de la finale de la Ligue des Champions? Tout d'un coup, je pense à ça. J'avais pas du tout prévu, mais je pense à il est dans l'effectif, il joue.
Il est dans la clinique psychiatrique, appelé. Ça commence à aller mieux.
Je me demande s'il a été prêté en Turquie, mais j'ai un doute en fait.
Oui, il semble.
Et puis la prochaine étape, c'est sans doute l'Azerbaïdjan.
Karius avait été accueilli pour son premier match avec Liverpool cette saison. Enfin, c'était un match amical à Anfield. Il avait été accueilli par une standing ovation de tout Anfield, qui était absolument magnifique. C'est bien. qui est totalement pardonné ces deux bourdes.
Alors voilà pour Liverpool, on verra si c'est la bonne, on a toute la saison pour en parler. Chelsea en tout cas, cale, Chelsea qui faisait la course en tête, 5 matchs, 5 victoires, puis tout d'un coup, il y a ses deux premiers points perdus, 0-0 à West Ham, le 17e. C'est pas tout à fait un bon signe avant cette double confrontation, on l'a dit, troisième tour de la Coupe de la Ligue demain soir, donc face à Liverpool, et puis surtout, samedi en championnat, Stamford Bridge qui accueille les Reds.
Le match de Coupe de Ligue, on va voir les équipes qui vont être alignées. J'entends des doutes sur les 11 qui vont être alignées. Mais c'est surtout que le faux pas de Chelsea, il arrive pas par hasard. Il arrive après la première semaine de Coupe européenne, notamment de cette Europa League qui se joue le jeudi soir et qui a un vrai problème. Alors, sans doute partout en Europe, mais surtout en Angleterre où ils font aucun cadeau. La première ligue fait aucun cadeau au niveau du calendrier. Ils auraient pu les faire jouer lundi, mais c'était pas possible. Ils les font jouer le dimanche à 13h30, ce qui est impensable. Et il manquait clairement de jus. Il n'y a pas la même intensité que demande Mauricio Sarri, et lui-même avait reconnu aussitôt après le match d'Europa League que ça allait vraiment être un gros problème cette compétition. Il savait pas trop comment la gérer et il a fait des changements, il a fait 6 changements, mais on a vu que c'était pas suffisant.
C'est vrai, quand on voit la fin de saison marseillaise l'an dernier, c'est un souci. Et il y a le même problème en France. En France, on joue pas le lundi du tout. Donc, quand vous êtes en Europa League le jeudi soir, et
au mieux, vous pouvez jouer le dimanche soir.
Voilà, vous faites des voyages, mais le dimanche soir.
Il faudrait que les clubs de Ligue 2 jouent l'Europa League. Ce serait pratique parce qu'eux peuvent jouer le lundi.
Voilà, ou permettre à des clubs de Ligue 1 aussi de jouer le lundi. Mais bon, c'est pour l'instant pas encore prévu. C'est un vrai problème parce que vous pouvez avoir des déplacements extrêmement lointains. Vous rentrez très tard le lendemain, etc. Donc, pour le coup, sur la durée en préparation pour les clubs, c'est un vrai handicap. Mais pour Liverpool, comme pour d'autres, les saisons aussi européennes vont être déterminantes parce que sur les fins de saison, Liverpool, on les sent bien partis de ce qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain pour passer en huitième de finale. On va voir, donc c'est quand même compliqué de mener Premier League et Ligue des Champions jusqu'au bout, donc ça peut être compliqué à un moment donné.
Chelsea coiffé à la différence de but à la deuxième place par Manchester City qu'on attendait au tournant après la défaite surprise face à Lyon. En déplacement à Cardiff 17 ou 18e, 5-0 avec les deux premiers buts de Riyad Mahrez, l'Algérien transféré cet été.
Il avait été assez discret pour pas dire maladroit depuis le début de saison. Il attendait ce transfert depuis 6 mois. Il avait été terriblement déçu de pas rejoindre City en janvier. Et on a l'impression qu'il joue avec un peu de pression, avec un énorme poids sur ses épaules. Et là, il s'est un peu libéré face à Cardiff. Il était sur le banc, il était titulaire en début de saison. Guardiola, il avait senti que c'était pas le moment pour le faire débuter. Et voilà, on espère que ça va lancer sa saison. En tout cas, il a le niveau, je pense, pour épauler les joueurs offensifs qui sont très très nombreux à City. Il va falloir qu'il se fasse sa place. Mais je pense qu'il a le niveau pour leur apporter un petit plus. Essayer de bouger un peu la hiérarchie qui est très compliquée à City. Il y a beaucoup de monde.
City, c'était important hein, de gagner quelques jours après, parce que c'était quand même une petite claque, cette victoire, cette défaite face à Lyon plutôt.
Oui, non, mais ils ont raté un match, mais des clubs comme ça n'en ratent pas deux de suite. Donc, j'étais pas très inquiet sur leur déplacement à Cardiff City. Je me doutais qu'ils sauraient redresser. Ils ont complètement raté ce match de Lyon. Bon, c'est un fait, mais ça reste une très bonne équipe. Même si quand j'entendais les gens me dire avant le match de Lyon qu'ils étaient favoris pour la Ligue des Champions, un club qui a jamais dépassé une demi-finale favori, c'est un concept que je ne connaissais pas. Bon, enfin bon. Admettons.
C'était le favori des bookmakers qui sont, faut rappeler, britanniques.
Anglais. Ils sont anglais, c'est ça.
Oui, forcément. C'est comme de dire que le Paris Saint-Germain fait partie des favoris.
Moi, je suis un peu moins sévère que Philippe. Ça me semblait pas complètement aberrant de les mettre parmi les favoris, les 2-3 donc favoris de cette Ligue des Champions. Quand on voit la saison qu'ils ont fait l'année dernière en Première Ligue, la constance de ce club maintenant, donc avec évidemment Guardiola, mais avec l'ensemble des joueurs qui sont là, le système, ils l'ont assimilé. La marge qu'ils avaient en Première Ligue la saison dernière et celle aussi qu'ils ont eu en Ligue des Champions, même sont tombés sur Liverpool, parce qu'était vraiment leur bête noire. Moi, je les vois quand même. Aller très loin, peut-être au bout.
Enfin, parce que c'est vrai qu'ils n'ont qu'une demi-finale. Pour le reste, ce sont essentiellement des huitièmes de finale hein, pour Manchester City.
Voir des premiers tours.
Les
premières années, c'était des premiers tours. Le Paris Saint-Germain, à la limite, a été plus vite que Manchester City pour arriver
en cumulant l'écart.
Ouais.
Arsenal revient dans la course avec un quatrième succès de rang. C'était pourtant tellement mal engagé ce début de saison pour Unai Emery et ses troupes. Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang qui marquent, ça c'est plutôt pas mal, surtout pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a eu un week-end agité. On en a parlé hier avec son papa qui est hospitalisé, on le rappelle, à Londres et qui a été annoncé comme sélectionneur du Gabon. Bon, les Gabonais nous ont habitués à faire un peu dans le chaud et dans le je sais pas trop quoi. Bref, on en a parlé hier, on va pas remettre une deuxième couche. Si vous nous écoutez à Libreville, salut. Voilà, et bon courage à Daniel Cousin, surtout, qui sera seul à la tête des Panthères, et le chantier semble immense.
En espérant qu'il ait de la place entre la fédération et le ministère.
Oui, on a bien compris que là aussi...
Qu'il puisse vraiment diriger l'équipe.
C'est pas moi, c'est lui.
C'est un concept différent. Voilà.
En tout cas, ils ont marqué, ils ont gagné. Les Gunners sont 6e à 6 points du leader. Finalement, ça se met en place. 4 victoires de rang en Première Ligue, ça compte.
Ouais, mais je suis pas tellement convaincu par leur parcours, pour être honnête. Ouais. Leur calendrier avait été extrêmement difficile sur les deux premières journées, parce qu'ils avaient Manchester City et Chelsea, donc compliqué.
Deux défaites.
Derrière, ils ont joué quand même des équipes surtout qui étaient de bas de tableau, que ça soit Crystal Palace, Newcastle, West Ham, et la dernière, c'est Leicester, qui fait pas un début de, je crois que c'est Leicester, non, c'était peut-être une autre.
Non,
bref, c'est l'équipe de bas de tableau.
Everton,
qui fait pas un grand début de saison,
qui a dominé largement toute la première période.
Et
le grand temps du match, c'est
Et qui aurait dû effectivement ouvrir le score. Et puis surtout qu'il y a un deuxième but d'Aubameyang qui est entaché d'un hors-jeu. Mais surtout, ce qu'on voit à Arsenal, c'est qu'il y a les mêmes problèmes qu'avant, les mêmes problèmes sous Emery et sous Wenger. C'est cette défense qui est catastrophique. C'est hallucinant. On a beau changer les hommes, il y a toujours les mêmes faiblesses. Il y a des espaces énormes. Il y a des problèmes individuels. Et tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème de défense, Arsenal n'ira pas plus haut que la cinquième place. Et là aujourd'hui, même s'il y a cette bonne série, et ça va leur apporter de la confiance, ça va permettre à Emery de travailler dans la sérénité, personne les voit dans le top 4 pour le moment.
Un mot, Étienne, je vous vois opiner du hochet.
De toute façon, au niveau des effectifs, est-ce qu'ils peuvent aller plus haut que la cinquième place? Il y a quand même des équipes en Angleterre.
C'est difficile,
ils ne sont pas forcément l'effectif donc pour être au-dessus. En tout cas, la saison d'Arsenal et celle d'Unai Emery, elle est scrutée en France. Hein, parce que Unai Emery, il a tellement divisé qu'il y en a qui attendent, mais alors fermement qu'il se plante Arsenal.
Moi, je l'avais déjà oublié.
Et d'autres en revanche, qui espèrent qu'il prouve à tout le monde qu'il aurait dû rester l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, je pense qu'on regarde aussi Arsenal cette saison un petit peu avec cet œil-là. En tout cas, moi, parce que j'ai mauvais esprit.
Refermons cette page Première Ligue avec Pogba qui tacle sévèrement, on peut le dire, son entraîneur, José Mourinho, qui en général n'aime pas trop ça. Il estime que les Red Devils doivent jouer pour attaquer et non pour défendre. Manchester United, un partout face au promu Wolverhampton, ils sont 7e à 8 longueurs. On sait que ils s'aimaient pas beaucoup, en tout cas on l'a constaté ces dernières saisons. Bruno, ça va pas s'améliorer, Mourinho va réagir.
Non, ça va pas s'améliorer, ça sent quand même le divorce, plus les semaines.
Vous croyez que Mourinho peut être vexé parce qu'on lui explique qu'il sait pas faire attaquer l'équipe parce que franchement, il est au courant de la manière dont il entraîne les joueurs, non?
Il n'a jamais parlé
à ses attaquants de sa vie, donc je vois pas pourquoi il s'en
réjouit. Ce qui est sûr, c'est que Pogba, ça ressemble à de la bonne communication de ce que veulent entendre les supporters. C'est une équipe qui attaque, et ce qui est pas le cas de Manchester United. Le problème, c'est que Pogba, le timing de la sortie de Pogba tombe un peu mal. Certes, il était décisif sur le but de Manchester, mais il a aussi été décisif sur le but concédé par son équipe. C'est lui qui perd le ballon au tout début de l'action. Et puis surtout, quand on regarde le début de saison de Pogba, il est pas terrible quand même. C'est le milieu de terrain, en Angleterre, le seul milieu de terrain qui a pas fait une seule interception en Première Ligue. Il y a 68 joueurs qui ont fait plus de tacles que Pogba en Première Ligue. Et même un joueur comme Bernardo Silva, qui porte le maillot d'une équipe dont l'entraîneur dit « mais qu'est-ce que c'est un tacle ?» Il a plus de tacles que Pogba. Donc ça résume pas un début de saison des tacles, mais ça montre bien le manque d'investissement de Pogba et de plus en plus de supporters à United.
C'est l'inverse de la Coupe du Monde, quoi.
Ouais.
C'est l'inverse de son comportement.
Il y a une vraie différence entre le Pogba bleu et le Pogba rouge, effectivement. Mmh. Ouais. Et les supporters s'en rendent compte de plus en plus, et il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé cette sortie.
Je vous voyais encore une fois réagir, Étienne.
Non, mais moi je comprends la sortie de Pogba, et en tout cas je pense que sur la durée c'est quand même compliqué de produire le jeu que fait Mourinho à Manchester United. C'est un club, c'est un stade où on a l'habitude de voir du spectacle, et vous pouvez finalement, pour l'instant il les a pas encore vraiment les vrais grands titres, en tout cas ceux qu'ils attendent en Angleterre, c'est-à-dire gagner la Première Ligue, mais vous pouvez pas sur la durée donc ennuyer les gens. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre Mourinho pour moi et Manchester United. Donc Pogba qui est malin et qui est en conflit avec Mourinho, il le pointe du doigt, mais moi je suis plutôt d'accord avec lui.
Et le public est plutôt gentil, mais de temps en temps quand le spectacle était négligeable.
Ce qui arrive souvent.
Ce qui arrive souvent. À la mi-temps, il y a quand même des bordées de sifflets parce que Etienne a raison, le public de United, ils sont pas du tout habitués à ça, quoi. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas un football aussi mièvre, aussi peu créatif, avec des ailiers qui démarrent au niveau de des latéraux, parce que c'est dangereux d'aller là-bas. C'est dangereux d'aller devant, quoi. C'est embêtant.
À suivre. Donc, surtout la réponse de Mourinho, on l'attendra celle-là. Allez, on va filer au Caire. L'instance fêtière du football africain réunit son comité exécutif au Caire jeudi et vendredi. Puis il y aura Réfé. Tiens, bonjour Réfé, il est venu, il s'est installé, bonjour, il est là. Oui. Il y aura, alors parce qu'on s'y perd entre les CODIR, les comités exécutifs, les congrès. Ils comité prennent l'avion samedi, ils vont dimanche à Sharm el-Cher, donc au sud de l'Égypte, cette fois pour
général.
Un... Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a le comité exécutif, il y a l'Assemblée générale. Il sera question, en tout cas jeudi, vendredi, de la prochaine CAN, en juin 2019, au Cameroun ou pas, je le disais, un feuilleton qui n'en finit pas, alimenté encore la semaine dernière par le président Hamad, de passage à Niamey, au micro d'Ousmane Guetta.
Il y aura une prise de décision où il y aura un ultimatum. Il faut qu'on se réunisse pour voir ensemble le comité. Mais ce que je peux vous dire, c'est pas la CAF qui retire la CAN, que ce soit à un pays ou à un autre, c'est le pays qui n'est pas prêt et il se désiste. Mais la CAF, il met tout simplement, voilà le cahier de charge. Vous êtes prêts, vous, on organise. Vous n'êtes pas prêts, ça veut dire que vous-même, vous vous retirez de cette organisation.
Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie.
Mais j'en ferai pas une maladie si tu veux pas, mais j'ai peut-être un plan B. Alors, mon cher Philippe Doucet, la CAN au Cameroun va être repoussée en 2021 à 2021.
Alors,
c'est une idée qui est dans l'air.
Non seulement on n'en sait rien, mais je suis absolument et totalement persuadé qu'il n'y aura aucune décision les 28 et 29 septembre 2018. Pour une raison très très simple, c'est qu'il y a des élections présidentielles au Cameroun le mois suivant et 15 jours après, ou je sais plus la date, je crois que c'est le 7 octobre me semble-t-il. Et qu'en aucun cas la CAF ne va se mêler de politique et créer un désarroi de ce niveau-là. Elle pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire dire mais il y a aucune raison, faut pas enlever la CAN. Mais il y a un truc beaucoup plus au Cameroun. Mais il y a un truc beaucoup plus troublant parce que ça passerait, ça ne gênerait pas évidemment le régime en place. Mais il y a un truc beaucoup plus troublant, c'est que vous avez regardé l'ordre du jour, Olivier? De l'Assemblée Générale
Non, mais c'est pas l'Assemblée Générale, c'est le comité exécutif.
Oui, parce que l'Assemblée Générale, c'est dimanche. Hein.
Parce que l'Assemblée Générale ne parlera pas... Enfin, à l'ordre du jour, il n'y a ni la CAN 2019, ni la CAN féminine 2018 à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on se demande si des décisions seront prises. Je ne suis pas...
C'est
je
le
pense
comité
que des
exécutif
décisions,
qui est plutôt saisi.
Je suis d'accord,
dossier.
Mais je ne pense pas que l'Assemblée Générale ne soit pas saisie quand même de
lui,
dossier
en tout
aussi
cas,
important.
On vient de l'entendre, il dit il y aura ou il n'y aura pas. C'est ça qui est drôle. Il y aura une décision ou un ultimatum.
Drôle.
Attention, c'est pas bien, mais on a l'impression que l'ultimatum, ça fait, je sais pas, tous les 6 mois depuis 3 ans qu'on donne un ultimatum au Cameroun. Est-ce qu'on peut imaginer quand même quelque chose du genre, voilà, les Camerounais ont demandé eux-mêmes à ce qu'elle soit repoussée en 2021 pour ce qui est de la leur, et en 2019, on sait qu'il y a des plans B, hein. L'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc. Le Maroc, on le sait depuis toujours, de toute façon, ils prennent tout. Mais l'Afrique du Sud et l'Égypte, voilà, il y a de la candidature, on peut imaginer ce scénario d'après vous?
Moi, parce que, d'abord, je pense que ça ne sort, encore une fois, ce sera pas fin septembre que ça se décidera ça. Mais oui, il peut y avoir une sorte de menace d'entretenir le fait qu'il y a trop de choses qui sont pas prêtes et le désir peut-être de la CAF de repousser la CAN. Mais on se rappelle quand même, au Cameroun en tout cas, on se rappelle quand même que dès le début, quand la CAF a fait passer à 24, donc le Cameroun s'est retrouvé devant cet ultimatum, le Cameroun, à mon avis, je comprends l'ego des dirigeants, je comprends qu'on ait voulu fièrement dire mais pas de problème, on fait la CAN quand même en 2019 sans aucun problème à 24, on sera prêt, etc. Je vois pas comment aujourd'hui le Cameroun pourrait dire bon finalement on a bien réfléchi, on est un peu en retard, ce serait bien de finir l'autoroute entre Douala et Yaoundé. Bon bah on va finalement on l'a fait en 2021, non? ça ne se passera pas comme ça. Je pense que s'il doit se passer quelque chose, ce que je ne pense pas en tout cas à court terme, et il n'y a pas de raison à court terme pour que la CAN ne soit pas au Cameroun. Mais je ne pense pas que ce soit que le Cameroun puisse déclencher ça. La déclaration d'Amad dans ce sens-là, elle est complètement folle. Je veux dire, c'est pas le Cameroun qui va dire non, on sera pas prêt. Oui, c'est même pas la peine.
Mais d'un autre côté, le président Amad ne nous a pas habitués à parler pour ne rien dire, et ses déclarations sont un peu troublantes.
Sur le dossier, on a entendu tellement de déclarations contradictoires.
Oui, mais là, quand même, à quelques jours du comité exécutif, il tient des propos qui sèment quand même un peu le trouble, qui interroge cette histoire de c'est le pays qui se retire. Il est en train de décrire pratiquement un processus qui va.
Moi, je suis assez à l'aise pour en parler parce que j'ai été le premier à dire dès le début. À partir du moment où on est passé à 24, à partir du moment où parallèlement le Maroc était candidat pour la Coupe du Monde 2026, il y avait une opportunité diplomatique géniale à saisir par les Camerounais en disant « bon, on fait un deal, on négocie bien avec la CAF, on discute et on reporte la CAN au Cameroun à 2021 où on sera sûr d'être bien prêt, d'avoir l'autoroute, d'avoir des hôpitaux, d'avoir un certain nombre de choses qui aujourd'hui vont être à peu près prête, mais limite, à l'heure de la CAN. Cette séquence, elle n'a pas été saisie. Comment voulez-vous revenir aujourd'hui dessus, dans des conditions diplomatiques et égotiques, si j'ose dire, à peu près correctes pour le Cameroun?
Enfin, qu'à 9 mois à peu près du coup d'envoi, on n'a pas un calendrier, on ne sait pas exactement...
Mais ça ne dépend pas de la candidature.
Oui, enfin, c'est la CAF qui organise. Ça montre quand même qu'il y a un gros
flottement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une confiance totale.
Quand même.
Ça vous inspire quelque chose, Étienne, vous qui êtes habitué aux instances et aux grandes instances du football?
Ouais, je suis plus habitué aux attributions de Coupe du Monde et aux dossiers de candidature qui sont aussi éminemment politiques. Et on soupçonne, en tout cas pour les plus grandes organisations, donc on soupçonne toujours les pays finalement d'être en retard, de ne pas être capable de le faire. Et l'expérience montre finalement qu'au bout du compte, le plus souvent, les pays y arrivent. Donc moi, je serais plus prudent. Et c'est vrai que je suis pas un spécialiste du dossier du Cameroun pour l'organisation de cette compétition. Mais finalement, au bout du compte, les matchs, ils sont dans des stades, ils sont retransmis. Et c'est ça qui ressort finalement au bout du compte d'une grande compétition.
Mais on verra s'ils sont retransmis et par qui, parce que ce sera aussi un des sujets.
Il y aura les stades seront finis, il faut quand même le dire. Il y aura des défauts à cette candidature, c'est certain, comme toutes d'ailleurs. Y compris même les Coupes du Monde. Il y aura des défauts, c'est certain, il y a des choses qui ne seront pas optimales. Mais on est à peu près sûr que les 6 stades seront terminés.
Il y aura match en tout cas. On a bien écouté ce que vous avez dit, on a bien écouté ce que le Réfé a dit, on a bien écouté surtout ce que le président Amad a dit. On verra s'il y a quelque chose, une décision prise jeudi, vendredi. On sait aussi que la CAN féminine est en question, alors c'est quand même plus grave, parce que c'est fin novembre au Ghana que c'est prévu.
Là où c'est encore plus grave, Olivier, c'est qu'on parle d'un pays qui a organisé la CAN en 2008 avec 4 stades. Là, vous organisez la CAN féminine où il y a 8 équipes. Vous avez besoin de 2 stades. Il n'y en a pas 2 au Ghana qui soient en état de recevoir cette compétition.
C'est hallucinant. Ils sont tous détériorés. Ouais, du côté de Tamale, ça n'est pas très étonnant quand même. Et puis, on rappelle qu'il faudra aussi renégocier les droits de TV.
Je crois pas que ce soit le pire, d'ailleurs.
Ah oui, Tamale, il était neuf. Il a été construit pour 2008. Et on savait déjà que 5 ans ou 4 ans plus tard, il ne servirait plus à rien.
Olivier, vous savez lequel c'est le pire? C'est Accra. Inutilisable. Accra. Vous vous rendez compte?
Ah, les stades en Afrique. Alors, il y aura aussi le problème des droits télé à renégocier, hein, bien sûr. On est passé de 16 à 24. Il faudrait quand même donner un peu d'argent. Allez, on termine. On n'a pas parlé de la série A, mais on a quand même vu ça.
Grand anticipo da parte di Stulaz, poi Gervinho può partire, Gervinho è andato, Licosani non lo prende, va a vuoto, Gervinho, sei inglese, ancora Gervinho, uno contro tutti, Gervinho, no!
Musicalement, on est quand même très au point aujourd'hui. Merci à Laurent Salerno, David Finzel. Ces gars-là ont 1000 idées par jour. Et franchement, c'est quand même plus sympa avec cette musique-là. C'est sympa de rendre hommage à Gervinho, 31 ans. Il est toujours vert. Il joue avec un promu Parme. Il a marqué un but exceptionnel lors de la victoire 2-0 samedi face à Cagliari. 60 mètres tout seul. Et boum, comme qui rigole. On espère le revoir très vite en sélection, partout. On l'adore, Gervinho. S'il nous écoute, si vous nous écoutez en Côte d'Ivoire. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Annie Gasnier, dites donc, là-bas en Côte d'Ivoire. On l'écoutera demain, Annie Gasnier, avec le petit moissonnier dans ses valises, Guillaume Ploquin aussi. Il vous prépare 2 émissions aux petits oignons, bien sûr. Ils seront eux aussi, sans doute, à l'écoute de ce qui se passera du côté du Caire. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Laurent Salerno, David Finzel, Pierre-Olivier Guérin. Et à très vite, c'est promis.